Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, une réunion aujourd'hui même à Tripoli, une conférence de soutien à la stabilité de la Tripoli avec cette spécificité. Cette fois-ci, cela ne s'organise pas à Paris ou à Berlin, mais on est bien à Tripoli, capitale de la Libye. C'est important pour les Libyens de se réapproprier ainsi le dialogue, la réflexion qu'il y a à mener et à conduire pour le devenir politique du pays. Alors, il y a des pays étrangers qui sont présents, hein, les Français, les Turcs, les Tunisiens ont envoyé des diplomates sur place, des délégations, de telle façon à ce que la réflexion puisse être collective. Mais il n'en reste pas moins que celle-ci demeure ancrée aux acteurs locaux qui vont donc pouvoir travailler ensemble pour fixer les prochaines échéances. Il s'agit d'organiser des élections présidentielles et législatives dans les prochains mois. On est à moins de 2 mois de la présidentielle. Il faut donc se dépêcher pour être prêt le jour dit. La Tunisie, avec ces questions qui se posent dans la communauté internationale, au Maghreb, dans le monde arabe, sur le devenir du pays, après les décisions qui ont été prises par le chef d'État, Kais Saied, cet été, de revoir l'organisation politique nationale tunisienne avec un rôle du Parlement qui est beaucoup moins important que celui qui lui est réservé maintenant. Alors il y a eu cette rencontre, cela s'est passé au palais de Carthage. C'est le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgeit, qui a pu rencontrer le président tunisien. Et à cette occasion, Tunis a dit être ouvert à la concertation, à la coopération avec ses pays frères, mais refuse catégoriquement, ce sont les termes qui ont été utilisés dans un communiqué officiel, refuse catégoriquement toute forme de tutelle ou d'ingérence dans ses affaires internes et rejette aussi les tentatives qui auraient pu être portées à l'encontre de ses intérêts. Donc voilà, en fait, à la fois on a un président tunisien qui dit « je ne bouge pas, je ne change pas les décisions qui ont été miennes, elles sont aujourd'hui telles quelles, il faut les accepter ». Et puis parallèlement à cela, on a aussi un discours qui se veut aussi peut-être plus apaisant, disant voilà, nous sommes aussi respectueux des principes de la démocratie, le respect des libertés individuelles et le droit de l'homme. En tout cas, c'est le propos qui a été tenu au secrétaire général de la Ligue des États arabes qui est actuellement en visite dans la région. La Tunisie, ce sont également des chiffres économiques qui sont tout à fait préoccupants. Selon l'Association nationale des propriétaires des petites et moyennes entreprises, hein, ce que l'on appelle habituellement les PME, eh bien, il y a eu la faillite de 130 000 entreprises tunisiennes ces derniers mois. Ils sont pas moins de 750 000 employés tunisiens qui ont été envoyés au chômage. Alors à cela, bien évidemment, il y a la crise du Covid qui a été tout à fait prégnante et qui a considérablement perturber le bon déroulement de l'économie tunisienne. Il y a aussi une économie tunisienne qui est en souffrance depuis 2011. Beaucoup de soubresauts politiques, beaucoup d'équipes qui se sont succédées au palais de Carthage, ce qui fait qu'il n'y a pas un message de stabilité qui a pu être dégagé par l'économie tunisienne. Et puis un contexte morose aussi, un contexte moral, un contexte économique global qui est aujourd'hui tourné vers une morosité, ce qui fait que la Tunisie est impactée de plein fouet. Le chiffre de 130 000 entreprises qui mettent la clé sous la porte est un chiffre tout à fait regrettable. L'Algérie et ceux qui fuient l'Algérie, ils sont toujours plus nombreux. Il y a eu 147 départs de migrants clandestins qui ont quitté les côtes algériennes ces dernières 24 heures. Ce sont là des chiffres qui sont tout à fait importants. On sait qu'il y a eu ces dernières semaines des arrivées qui sont allées jusqu'à 1000, 1200 Aragas qui ont réussi à traverser la mer Méditerranée au départ des côtes algériennes vers l'espace Schengen. Parmi eux, des femmes, des enfants ainsi que des personnes âgées. Parmi ces Aragas, beaucoup ont été testés positifs au Covid-19 lorsqu'ils sont arrivés sur les côtes européennes. Nous restons sur les dossiers relatifs à la migration avec cette décision qui a été rendue par le tribunal de Las Palmas qui a condamné à 8 ans de prison des passeurs qui avaient dirigé une expédition d'immigration clandestine, et ceci depuis la Mauritanie. Cela s'est déroulé aux alentours du 20 août. C'est une opération qui avait duré 2 semaines. 5 passagers à bord du bateau de clandestins sont décédés à bord du bateau dans des conditions absolument épouvantables. Il y avait notamment à bord de ce bateau des Maliens et des Guinéens qui n'auront jamais vu les côtes de l'Europe. Guerre civile en Syrie. Notre destination aujourd'hui est la Syrie, avec cette attaque d'un avant-poste militaire américain isolé dans le sud du désert syrien. Il a été victime d'une attaque de drone. Cela s'est passé hier soir. Des explosions ont été entendues à proximité de la garnison de Al-Tanf. Cela s'est déroulé en fin d'après-midi. La base abrite des forces des opérations spéciales américaines ainsi qu'une milice rebelle locale qui est connue sous le nom de Taghir al-Tawara, MAT pour ce qui est de son acronyme. Aucune victime américaine n'a été signalée. Les premiers rapports américains du CENTCOM indiquent que l'attaque impliquait des drones, donc des avions sans pilote. Il y a eu des tirs directs. Cela pourrait émaner soit de roquettes, de mortiers ou bien de tirs d'artillerie. Les Américains maintiennent encore environ 3000 soldats sur l'axe syro-irakien, ceci dans la continuité de la guerre qui a été menée contre le groupe État islamique. Pour l'instant, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque, mais qui est tout à fait significative. Les Américains, eux, ont entamé bien évidemment une enquête. Il s'agit de savoir qui pourrait être l'auteur de cette attaque. Maintenant, c'est vrai que les yeux se regardent et se tournent naturellement vers les milices pro-iraniennes. On sait que les relations sont considérablement dégradées entre les milices pro-iraniennes, mais qui sont à la fois en Syrie et en Irak, qui réclament le départ des derniers soldats américains de cet axe syro-irakien. Ces tensions s'exercent habituellement par des dépôts de mines sur des routes de ravitaillement. Ce sont donc plutôt des camions habituellement qui explosent. Souvent d'ailleurs, il n'y a pas de victimes. Ce sont des perturbations sur les chaînes logistiques qui vont ravitailler les bases américaines. Mais là, le fait que cette base ait été directement prise à partie signifie une augmentation dans le niveau de conflictualité. Ce qui indique aussi aujourd'hui qu'il y a toujours ce débat qui existe par rapport à la présence américaine. Est-ce que celle-ci va être allégée? On sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs après le départ américain de Kaboul, d'Afghanistan, le 15 août dernier. On s'est demandé, mais est-ce que les Américains qui sont en Syrie et en Irak ne vont pas suivre? Pour l'instant, les autorités de Washington semblent dire non, nous allons rester, nous allons tenir les positions qui sont les nôtres et poursuivre la lutte contre le groupe État islamique. Mais c'est vrai que cela s'inscrit malgré tout dans un climat où l'on se demande, est-ce que les Américains vont tenir ou est-ce que à terme, ils pourraient y avoir également des allègements significatifs de leurs effectifs sur cet axe syro-irakien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.